devenir son leader.
Bonjour et bienvenue sur notre podcast Devenir son leader. Avec 52 épisodes pour changer de vie, notre podcast a pour but de vous donner des méthodes simples et efficaces pour devenir le leader que vous rêvez d'être, devenir son leader. Je suis Nicolas Lubache, orateur et formateur dans l'art de créer des discours et dans le leadership interne. Nous allons traiter aujourd'hui au sujet de l'improvisation. Et au programme, nous aurons une interview de notre leader du jour, Stéphanie Vautrin, et nous terminerons avec un retour d'expérience sur une méthode que j'ai testée pendant une semaine. Mais avant, commençons par une question de nos chers auditeurs et auditrices. Marie-Hélène, 28 ans, assistante commerciale dans une banque, nous pose la question suivante. Bonjour Nicolas, une chose me fait peur dans la vie, c'est d'intervenir dans une prise de parole en public ou avec une personne alors que je ne suis pas préparé. Que dois-je faire ? Bonjour Marie-Hélène et merci pour ton message. Pour certains, il faut vraiment avoir une bonne dose de courage et de l'éloquence pour parler sans préparation. Oui, il faut du courage. Et pour la plupart des orateurs, ce sont des années d'expérience, d'audace et de la méthode qui font qu'ils apparaissent naturels, à l'aise et détendus. Mais je peux vous rassurer que le stress sera toujours présent, même chez les orateurs confirmés. Mais revenons à l'essentiel. Comment devenir plus à l'aise avec des discours improvisés ? La réponse est dans la question. L'improvisation. Je prends comme exemple le jazz avec ses parties improvisées. Tout est structuré dans un morceau de jazz. À partir du moment où le musicien maîtrise la structure d'un morceau et lorsqu'il connaît les règles musicales, il peut se permettre de partir dans des improvisations endiablées car il aura gagné en expérience et en aisance. L'improvisation de discours est la même chose. La maîtrise de certaines règles et de la pratique vous permettront de vous en sortir avec brio lors de ces discours improvisés. De nombreuses méthodes existent, comme l'improvisation théâtrale, mais aussi les célèbres réunions Toastmasters International, association à but non lucratif, qui vous donne de précieux conseils pour improviser. Et pour parler de notre sujet du jour, l'improvisation, j'ai l'immense joie de retrouver notre leader du jour, Stéphanie Vautrin. Alors Stéphanie, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors Stéphanie, tu es coach de vie et fondatrice d'Improve Yourself. Alors peux-tu me dire pourquoi tu as prononcé Improve Yourself ?
Alors à la base, quand j'ai créé Improve Yourself, le nom a émergé il y a déjà 5 ans. À l'époque, je savais pas trop vers quoi j'allais aller avec ma société, enfin mon projet d'entreprise en tout cas. Mais je sais que depuis très très longtemps, je suis animée par deux choses, c'est l'amélioration de moi-même et l'improvisation théâtrale. Donc dans ce jeu de mots qui ne marche qu'en anglais, c'est pour ça que j'ai un nom en anglais. Il y a l'amélioration de soi, improve, et improve, et l'improvisation, improve. Donc c'était parti sur ce petit jeu de mots. À l'époque, j'avais aucune idée du fait que j'allais devenir coach de vie. Mon idée de départ, c'était de faire de la formation en entreprise en utilisant les outils de l'improvisation théâtrale. Et l'expérience, le temps, les envies, les aspirations que je sentais au fond de moi m'ont amené vers ce métier de coach de vie.
Alors justement, comment tu en es arrivé à l'improvisation ?
Je crois que ça a toujours été depuis que je suis toute petite, en fait, je faisais des spectacles devant ma famille, j'ai fait du théâtre. Et puis, par contre, j'avais toujours un gros poil dans la main quand il s'agissait d'apprendre des textes. C'était toujours le truc qui me faisait le plus suer dans toute cette pratique théâtrale. Et un jour, j'ai découvert qu'on pouvait faire du théâtre et être sur scène sans avoir à apprendre de texte. Et là, mon cerveau a explosé intérieurement. Et je me suis dit, mais c'est la chose la plus merveilleuse qui doit exister au monde. Et voilà, donc je suis restée là-dessus, puis le temps est passé, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, et j'avais arrêté le théâtre pendant ce temps-là, et un jour, je croise à la caisse d'un supermarché un ami qui m'avait dit qu'il faisait de l'improvisation théâtrale, le hasard le plus total, que j'avais pas vu depuis 2 ans, et il me dit que les recrutements dans son association allaient redémarrer dans 2 semaines. Et donc, je me suis présentée pour la journée de recrutement, et c'était en 2008. Et depuis, j'ai jamais arrêté de faire de l'improvisation, ou très peu. Et quand je me suis présentée à la journée de recrutement, ma prise de conscience initiale de me dire ouais, c'est génial, tu peux faire du théâtre sans avoir à apprendre de texte, s'est révélée être vraie, dans le sens où c'est pas la même approche, le même travail que le travail de travailler un texte, de travailler un jeu d'acteur. C'est pas les mêmes, on va pas faire forcément les mêmes exercices, même s'il y a beaucoup de points communs avec le théâtre. Mais ça va demander à l'improvisateur des valeurs, d'avoir un mental, enfin, quelque chose qui se passe au niveau du mental où, en fait, t'as besoin de valeurs qui sont aussi précieuses dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, l'attention, le non-jugement, la présence dans l'instant présent, l'acceptation de l'autre et de ce qu'il va te proposer comme idée, la cohésion de groupe, c'est-à-dire qu'on est un groupe et on n'est qu'un, et quand on crée une histoire, c'est pas, il n'y a pas un individu qui compte plus que l'autre, c'est chacun vient apporter sa petite pièce à l'édifice. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à des états d'esprit comme ça, à des mindsets comme ça, que on arrive à créer des superbes histoires qui nous marquent nous et qui marquent aussi le public. Parce que le but de l'improvisation théâtrale, c'est de raconter des histoires. Et quand on les raconte, on est à la fois l'auteur, donc celui qui écrit l'histoire, co-auteur, le comédien et le metteur en scène. Parce que tu dois gérer ces trois postes-là en même temps quand tu fais une improvisation. Donc, quand on le fait, ça peut paraître simple, mais en fait, derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pratiques en amont pour arriver à se lâcher prise à cette impression de naturel qui, en fait, c'est devenu naturel parce qu'il y a eu du travail derrière.
Et concrètement, qu'est-ce que l'improvisation dans ton quotidien t'a apporté concrètement?
C'est vraiment ça, ce truc de pas être dans le jugement, que ça ne m'apporte rien, de pas laisser mon ego troubler mais enfin, autant que faire se peut, parce qu'on a toujours un peu d'ego qui traîne quelque part, mais ne pas le laisser venir se mettre en filtre, en jugement dans mes relations, dans ce que j'entreprends, grâce à l'impro, je me sens beaucoup plus légère d'avancer, beaucoup moins comment dire, sujette à ce que va penser l'autre de ce que je suis en train de faire, ou de ce que je suis, ou de ce que je pense, ou voilà. Et c'est d'accepter aussi les choses telles qu'elles se présentent. C'est-à-dire que ça sert à rien de lutter contre la réalité, comme voilà, en ce moment, on a été confiné, on a été déconfiné. Ça sert à rien de lutter contre ça, de dire ah c'est nul, ah, c'est dangereux, ah, on va tous mourir. Toutes ces pensées-là sont juste parasitaires et m'empêcheraient, si je les avais, de me concentrer sur ce qui est vraiment important pour moi au moment présent. Et encore une fois, donc je reviens au moment présent, c'est-à-dire que dans l'improvisation, si t'es pas dans ce qui est en train de se passer, que t'es en train de réfléchir à ce que tu vas pouvoir dire après que la personne elle a fini de parler, tu vas pas être concentré sur ce qu'elle est en train de dire. Donc tu vas louper des informations, donc tu risques de louper la scène parce que t'es pas dans ce moment présent. Et ça a vraiment été un bel enseignement de l'improvisation, c'est que c'est bien de se projeter, mais anticiper ce qui risque de se passer, ça va pas t'aider à avancer, en fait. Ça va pas t'aider à construire un truc solide. Donc voilà, c'est vraiment l'improvisation. On retrouve des allégories de la vie à plein d'endroits différents. Et c'est vraiment, je trouve ça fascinant et passionnant à la fois à quel point, en fait, l'improvisation, c'est comme une mini école de la vie, quoi.
D'accord. Alors j'ai beaucoup entendu le mot présent, le moment présent. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que l'improvisation est importante dans la communication?
La communication, c'est de l'improvisation. On improvise tous les jours, en fait. Tout le monde est capable d'improviser. Je suis en train de te parler, je suis en train d'improviser. T'es en train de m'écouter. La prochaine question qui va sortir, elle sera improvisée. Voilà, on est tous en mode improvisation. Mais comme notre mental il est toujours en recherche de sécurité, il est toujours en recherche de maîtrise, parce que lui, son but, c'est qu'on survive, c'est notre survie. Il va toujours être dans l'anticipation des dangers qui pourraient se passer. Donc, il nous donne une espèce de fausse illusion de sécurité en essayant d'anticiper. Je sais pas, si je sors dans la rue, tu risques de te faire écraser par un bus, tu vois. C'est fausse illusion. Ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer. Mais bon, ça n'a rien d'y penser, parce que ça va pas empêcher le danger si ça doit se passer, tu vois. Je sais plus comment j'en suis arrivée à te parler du bus.
D'improvisation dans la communication.
Ouais, voilà. Donc quand on communique, on est tout le temps en train d'improviser. Et ce qui va tuer le naturel, ce qui va tuer parce que le but de communiquer, c'est de faire passer un message. Ce qui va tuer le message, en fait, c'est quand on est trop dans notre mental, on est trop dans qu'est-ce que va penser l'autre, dans l'anticipation, encore une fois. Dans le jugement de que voilà, si je dis ça, il va penser ça. Ça sert à rien, c'est juste de la pollution créée par notre mental qui nous empêche de vivre vraiment le moment présent, encore une fois, et la transmission du message qu'on veut transmettre.
D'après toi, pourquoi on a autant peur de paraître naturel?
Parce que ça veut dire être soi, être authentique. Et donc, ça veut dire être vulnérable. Ça veut dire montrer ses failles, montrer qu'on est un être humain imparfait. Et notre ego, encore une fois, dans un esprit de protection, il veut montrer qu'on est des êtres parfaits. Parce que comme ça, on est inatteignable. On est, encore une fois, cette illusion de sentiment de sécurité projetée par l'ego, cette illusion d'être inatteignable. Si je montre une image de moi parfaite, on pourra rien me reprocher. Donc, on pourra pas me faire mal. Alors qu'en fait, on va juste mettre un mur entre nous et la personne ou le public avec qui on veut communiquer. Et le public, il va voir le mur, en fait. Il le voit inconsciemment, il le voit qu'il y a de la protection, qu'il y a de la peur, qu'il y a du stress, il voit tout ça. Alors qu'en fait, si on veut vraiment, quand on prend vraiment conscience, que l'importance, c'est pas nous et ce que le public va penser de nous, mais le message que l'on veut faire passer, quand on met vraiment le focus sur ce qui est important, sur le pourquoi on communique et ce qu'on a à communiquer, on se rend, en fait, les barrières, elles tombent d'elles-mêmes, parce que tu te concentres sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le cœur de ton message, l'information que tu veux transmettre. Et ton ego, il n'est pas à la hauteur de ce message-là, parce que le vrai sens de la communication, elle est là. Elle n'est pas ce que va penser l'autre. Et même si l'autre, il pense des trucs, en fait, essayer de contrôler ce que pense l'autre, c'est complètement inutile, ça ne sert à rien. L'autre, il a le droit de penser exactement ce qu'il veut, comme toi, tu as le droit de penser exactement ce que tu veux. Mais ça ne sert à rien d'essayer de le contrôler, parce que tu pourras jamais arriver à contrôler quelqu'un. La seule personne que tu peux contrôler, toi. Donc, autant se contrôler de la meilleure manière possible, de manière logique, cohérente, et de faire les choses, quand on communique, de communiquer avec en mettant notre attention sur ce qui est vraiment important.
Moi, ce que j'entends, tu veux dire que, au lieu de se focaliser sur ce qu'on va dire, vaut mieux se focaliser sur le message. Et qu'est-ce que tu penses de la vulnérabilité qui peut être une faiblesse?
Alors, on se concentre. Alors, le truc, c'est que dans ce que tu viens de dire, on se concentre plus sur ce que les autres vont penser de nous que sur le message qu'on veut transmettre. Et c'est là où on se perd, en fait. C'est le fait de penser à ce que les autres vont penser de nous, c'est là où on essaie de cacher notre vulnérabilité, parce qu'elle est là, en fait. Quand on doit prendre la parole devant des gens. L'ego va surgir en disant « Ouh là là, mais attends, t'es en train de te mettre en danger là, qu'est-ce qu'ils vont penser tous ces gens qui vont te regarder ? Et si tu bafouilles, et si tu oublies ce que t'as à dire, et si c'est pas bien ?» Voilà, ils vont penser plein de trucs à ton sujet, ça va pas du tout. Et donc, se mettre en vulnérabilité, c'est de se dire « Ok, ce que vont penser les gens, je n'en ai absolument rien à faire, ça leur appartient. » Moi, je sais ce que je pense de moi. Je suis bien. Alors, c'est pour ça que travailler sur soi, c'est aussi important, parce que quand on pense des trucs pas cool à son sujet, ça va pas aider à s'exprimer devant d'autres personnes, parce qu'on va avoir tendance à se tirer vers le bas plutôt qu'à céder. Donc la vulnérabilité dans tout ça, Elle prend place quand tu acceptes que bah oui, le fait de prendre la parole devant des gens, bah c'est l'été ou la porte ouverte au jugement. Les gens, ils ont le droit de te juger, ça leur appartient, ils ont exactement ce qu'ils veulent de toi et c'est ok en fait. C'est ok. Ça veut pas dire que t'es moins que ce que tu es réellement. Ça veut rien dire à ton sujet en fait. Les pensées des gens à ton sujet ne veulent rien dire à ton sujet, de ta personne, ne vont rien changer à qui tu es. Mais pour ça, il faut que tu sois bien ancré en toi, que tu saches en fait qui tu es, quelles sont tes valeurs, où est-ce que tu vas dans la vie, pourquoi tu te lèves le matin, il faut que tu sois au clair avec ça. Et pourquoi est-ce que la prise de parole ou la communication de manière générale, ça peut être douloureux pour certaines personnes, c'est que beaucoup de monde n'est pas au clair avec ça. Beaucoup de monde n'est pas au clair avec qui ils sont, ce qu'ils veulent, et on leur a appris à se construire par rapport à l'extérieur, par rapport aux attentes extérieures, aux attentes des parents, aux attentes des profs, aux attentes des amis, aux attentes du conjoint, mais on leur a jamais appris à se construire par rapport à eux et à leurs propres attentes et à ce qu'ils veulent vraiment eux dans la vie. Donc du coup, ça fait des êtres humains un peu bancal, qui avancent mais sans trop savoir vers quoi dans la vie. Et je me suis un peu éloignée du sujet de la vulnérabilité, mais si tu veux, j'y reviens parce que quand tu touches du doigt cette vulnérabilité, quand tu touches du doigt le fait que t'es un être humain imparfait et que c'est ok d'être imparfait, bah tu te libères en fait. Tu te libères du regard des autres. Tu te libères de ton propre jugement et t'es inarrêtable. Que ce soit dans la communication ou dans des projets que tu veux lancer ou dans comment tu vois ta vie, en quelle mesure tu projettes ta vie. Il y a rien qui peut t'arrêter puisque il y a plus de jugement, il y a plus de boulet qui te tiennent en arrière de qu'est-ce que vont penser les autres et qu'est-ce que je pense de moi. Parce que tout ça, c'est au niveau du mental. Et tant que t'es dans ton mental, tu peux pas être dans ton action.
Donc, être clair avec soi-même pour être clair dans son message et dans sa façon de communiquer.
Ah oui, mais de toute manière, on revient toujours à cette question du pourquoi. Pourquoi tu fais les trucs? Pourquoi tu vas prendre la parole devant des gens? Pourquoi tu vas t'exprimer, ça sert à quoi? Quand tu es focus sur ton pourquoi, après le comment, tu vois, ça devient secondaire en fait. Le comment, c'est comment la public va le percevoir, comment tu vois, si tu es bien solide sur le fond de ton message, sur le pourquoi du message que tu as à transmettre, rien peut t'arrêter quoi. C'est là où tu goûtes au plaisir, à la fluidité, à la clarté, à l'efficacité. C'est là où tu rentres dans ta puissance.
En parlant d'efficacité, est-ce que tu aurais un exercice d'improvisation rapide et simple à nous proposer?
Pour l'efficacité?
Peu importe, quelque chose qui... peut nous rapidement donner un avant-goût de l'efficacité d'une improvisation.
Alors tout seul, c'est pour ça aussi que j'ai lâché un peu le côté improvisation dans mon métier actuel de coach de vie, parce que l'improvisation c'est des exercices. Enfin, quand on s'entraîne en improvisation, c'est des exercices de groupe, donc il faut être. De mémoire, il n'y a pas d'exercice que tu peux faire tout seul à part. Je sais pas si tu veux travailler un accent ou quoi. Tu peux le faire tout seul, mais si tu veux, il y a besoin de cet inconnu de qu'est-ce qui va sortir de la bouche de l'autre pour rentrer en improvisation. Tu peux très bien improviser tout seul, mais quand tu t'entraînes, c'est quand même mieux d'être en groupe. Donc moi, pour revenir sur le moment présent, si vous êtes en groupe et que vous voulez, que la cohésion se fasse dans le groupe très rapidement, ou ça peut être, je pense, parce que on s'est connu à Toastmaster avec Nicolas, je pense, par exemple, oui. Les jours de concours où c'est très stressant, on a le mental qui est très agité, un truc à faire avec les gens qui vont passer pour faire un discours ou des improvisations, c'est de les rassembler en cercle et les faire compter de 1 à 20, chacun de manière complètement aléatoire. Chacun va dire un chiffre et quand deux personnes disent le chiffre en même temps, on recommence à zéro jusqu'à ce que le groupe dans sa totalité arrive à compter ensemble jusqu'à 20. Donc tu vois, moi je vais dire 1, après mon voisin d'en face il va dire 2 et après il y a deux personnes qui vont dire 3. Donc là on recommence à zéro. Et en fait, ce qui se passe dans cet exercice, c'est qu'on va juste se rassembler tous ensemble dans le moment présent et être en pleine présence des uns et des autres. Du coup, on déconnecte le mental et on est juste là et on a un objectif qui est simple, c'est de compter jusqu'à 20. Et du coup, ça fait baisser le stress, ça met le mental à sa juste place, ça met vraiment dans des bonnes conditions pour ensuite aller présenter le message qu'on a présenté sur scène.
Merci pour cet exercice d'improvisation pour avoir une meilleure cohésion.
Pas que cohésion de groupe, mais surtout pour ramener au moment présent, en fait, surtout ça.
D'accord. Ah oui, c'est important. Alors j'aimerais que tu te rappelles de la petite Stéphanie qui avait 14 ans. Est-ce que tu t'en rappelles?
Oui, très bien.
Si tu avais un conseil ou une astuce à lui donner, quel conseil tu lui donnerais pour aller plus vite dans la vie, pour aller mieux?
C'est pas évident comme question parce que on est aussi la somme des expériences qu'on a vécues. Donc si j'avais pas été cette petite fille de 14 ans, je serais pas devenue cette femme de 36 ans. Donc la seule chose qui me vient à l'esprit et je me dis c'est ça me ferait pas gagner des étapes mais pas combien. Ça ne ferait pas zapper les étapes de mon cheminement, mais ça l'aurait peut-être rendu un poil moins douloureux. Je sais pas. C'est juste de m'aimer, de m'accepter tel que je suis, d'accepter les choses telles qu'elles sont, et de pas lutter contre la réalité. Mais tu vois, quand je te dis ça, je me dis c'est si je l'avais appris trop tôt, peut-être que du coup, ce serait j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu derrière, et ouais, je serais une personne. Bah, je sais pas qui je serais aujourd'hui du coup. Alors. Mais oui, je pense que pour avancer plus vite, c'est sûr. Si j'avais pu à comprendre l'importance de m'aimer, de m'accepter tel que je suis, sans essayer de lutter contre ma réalité, j'aurais gagné beaucoup d'énergie, en tout cas, à le faire.
J'ai entendu que tu as souffert. Ma question serait, est-ce que tu as eu des périodes d'échec et comment as-tu pu rebondir dessus?
Oui, bah comme tout le monde, j'ai eu. Enfin, la vie, c'est 50-50, 50% d'échecs, 50% de succès, ou de trucs pas cool et de trucs cool qui t'arrivent. C'est un mélange des deux. Alors après, comment tu t'en sors, bah ça dépend des phases, mais je pense
toi,
que ça.
Toi, ta façon de t'en sortir, quelle a été ta méthode ou quelle a été ta motivation pour avancer?
Dans un premier temps de ma vie, je dirais, puisqu'on repart de l'adolescence, il y a eu la fuite et la compulsion, c'est-à-dire manger, regarder des séries. Quand j'étais face à quelque chose de trop douloureux ou de trop confrontant, la fuite, c'est un mécanisme de défense animal. Ça c'était avant, et depuis que j'ai compris et qu'il n'y avait rien de mieux que de l'acceptation et le travail cohérent, c'est-à-dire le passage à l'action cohérent avec ce que je veux dans ma vie, j'ai plus besoin de fuir, en fait, parce que rien n'est jamais aussi grave que ce que mon mental, mon ego, a envie de me faire paraître.
D'accord. Et quels ont été tes plus beaux succès?
Je dirais que le fait de fonder ma famille... Tout le temps quasiment, oui, en même temps, en 2017. Donc j'ai commencé mon activité en 2015, j'étais en couveuse d'entreprise, c'est-à-dire que tu n'existes pas officiellement en tant qu'entreprise, tu es accompagné, tu es chouchouté, tu es voilà, couvé. Ça porte bien son nom pendant les deux ans de création du projet. Mais ça te met pas face à tes responsabilités d'entrepreneur non plus, donc ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Ça te met dans un confort qui est pas très... qui va pas très bien avec l'entrepreneuriat, donc je me considère entrepreneur que depuis 2017. Et donc c'est la même année où j'ai eu mon fils, mon premier enfant. Et donc d'avoir mené tout ça de front, la création de ma société, le fait de mener ma propre barque et de fonder ma famille, c'est tout en continuant à m'améliorer, à travailler sur moi, à grandir, parce que un coach qui fait pas ça, c'est pas, enfin, pour moi, hein, il va pas pouvoir tenir longtemps dans sa profession parce que un coach qui ne se transforme pas, qui n'évolue pas, qui reste statique sur ses positions et sur ses outils, c'est qu'il a loupé un truc dans le métier, quoi, un truc qui a pas été compris. Donc voilà, donc de mener tout ça de front, c'est un beau challenge, une belle réussite pour moi qui partait de loin en termes professionnels, où j'ai, parce que dans ma carrière précédente, j'étais pas du tout alignée avec mes choix et je subissais mon quotidien, alors qu'aujourd'hui c'est tout l'inverse, quoi. Ça veut pas dire que c'est parfait et que tout est rose. Encore une fois, dans la vie, c'est que du 50-50, donc il y a toujours des situations de merde et il y a toujours des situations trop bien. Et ben, on fait avec les deux, mais je préfère beaucoup, enfin de manière incomparable, mon quotidien aujourd'hui que mon quotidien avant d'être vraiment sur la voie qui a du sens pour moi, quoi.
Ben, ça fait deux belles réussites.
Ah oui.
Et quels sont... Est-ce que tu veux nous parler de tes projets futurs ?
Mes projets futurs. Alors, bon, il y en a plein là en ce moment. Bon, déjà, je suis enceinte, donc enceinte de bientôt.
Félicitations.
Merci. Je vais bientôt arriver au troisième trimestre. Donc pour septembre. Ensuite, donc il y a ça. Il y a un projet d'achat de maison dans lequel on serait en autonomie alimentaire, énergétique dans l'arrière-pays du 06. Et où on construirait des écologes pour faire du tourisme durable et écologique, enfin, avec des animaux. Enfin, il y a un gros projet qui est en train de se mener. Bien sûr, pour l'arrivée de, en même temps, enfin, on va signer la maison si on la signe, je touche du bois. Pour l'arrivée de ma fille, donc en septembre, ça sera tout va se faire en septembre. Et j'ai un projet aussi de création de jeux de cartes. Autour de l'ego, des gardiens de l'ego. Ça, c'est un truc que j'ai un peu mis sous le coude ces derniers temps avec le confinement, mais qui me tient vraiment à cœur. En fait, le but de ce jeu, c'est de présenter, c'est que chacun prenne conscience par le côté ludique, par le côté jeu de cartes, des mouvements de l'ego qu'il y a en nous. Et ça se présente sous forme de gardien, comme le gardien de la perfection qui va vouloir que tout ce qu'on fasse soit parfait et qui va nous mener à la procrastination parce que quand c'est pas parfait, bah, du coup, ça nous bloque et du coup, on fait pas. Donc, en nous, on a plein de gardiens comme ça qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller vers qui on a vraiment envie d'être au fond de nous. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Mais que j'ai pas pu développer pendant le confinement. Donc là je sais pas comment je vais l'articuler encore, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais c'est un truc qui me tient vraiment vraiment à cœur à développer.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Bah, j'ai envie de te dire non. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé, d'avoir dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai toujours été clair.
J'ai été très clair.
Ouais.
Oui, c'était très intéressant et très clair.
Cool. Non, ça m'a fait plaisir de partager des sujets qui me passionnent. Donc, je pense que je pourrais. Ouais, certainement qu'un jour j'écrirai un livre sur tout ça parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'anime, quoi.
Ah, bah, j'ai hâte de le lire. tu m'en enverras un exemplaire.
Voilà.
Alors, merci Stéphanie. Alors, tu nous as parlé, pour faire un retour sur notre interview, de l'improvisation qui t'a permis de te mieux centrer sur le moment présent, le travail sur soi pour mieux communiquer et qui t'a permis d'être plus présente. Oui, on peut dire ça, plus présente dans la vie. Mmh. Et je te remercie pour ça. C'était une très belle expérience d'interview. Je voudrais conclure en parlant de ton podcast, hein, de ton podcast Bonjour Bonheur et de ton site Improve Yourself pour recevoir les newsletters qui sont très intéressantes, je vous le conseille. Alors, Improve Yourself, IMPROVYOURSELF.fr. Stéphanie, je te remercie.
Merci à toi, Nicolas.
Ça a été vraiment un plaisir.
Moi aussi.
Chers leaders, tout de suite, passons à un exercice que j'ai testé pendant une semaine. Cette semaine, j'ai testé un exercice incroyable qui m'a fait gagner en confiance en moi dans l'improvisation. Et voici l'exercice. Marcher tranquillement. L'idée est d'avoir un sujet en tête, par exemple la cuisine. Maintenant, improviser en prononçant une syllabe à chaque pas. Et c'est tout. Alors, c'est tout. Mais au début, j'ai trouvé l'exercice compliqué, car je sortais souvent du sujet ou alors je n'avais plus d'idée. Et l'astuce est de s'amuser pendant l'improvisation et de varier le tempo de la marche. Au bout d'une semaine, j'ai vraiment gagné en concentration pour rester sur le même thème et ma mémoire est devenue plus créative. À tous les leaders, testez cette méthode et vous verrez que vous gagnerez énormément en aisance dans vos prochaines discussions ou conversations. Pour finir, j'aimerais remercier l'excellente Stéphanie Vautrin pour nous avoir donné l'occasion de l'interviewer. Retrouvez-la sur son podcast Bonjour Bonheur et sur son site improveyourself.fr. improveyourself.fr. La semaine prochaine, nous parlerons de cycle dans un projet. Cet épisode vous a plu? Laissez un commentaire et une belle appréciation improvisée. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour devenir un leader, pour devenir son leader. À la semaine prochaine.